Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ils sont allés au front vaillamment. On leur avait annoncé comme ça d'ailleurs une guerre dont ils seraient les soldats. Certains, mobilisés, ont repris un service qu'ils avaient quitté depuis longtemps. D'autres sont revenus de congé ou du bout du monde. Ils ont été exposés, parfois contaminés, blessés, épuisés, mais ils étaient là, à l'appel, ils ont tenu le coup, fiers de sauver la France, ils ont serré les dents. En même temps, ils ont été galvanisés, traités comme des héros, ça ne coûte pas cher, ils ont été encensés et applaudis tous les soirs à 20h par des milliers de citoyens patriotes, mis en une de Paris Match, sujet d'articles et de reportages. Acclamés comme des dieux, titre Le Monde, les soignants, tout comme les livreurs, les routiers, les caissiers, ont été soutenus comme jamais par la population, les médias et les pouvoirs publics pendant la crise du corona. Ils ont eu des primes et des honneurs, de la considération pour leur métier d'ordinaire invisible, enfin pour ceux qui ne regardent pas de très près. Quelques semaines plus tard, savent-ils réellement, les soignants qui nous intéressent aujourd'hui, ce qu'ils ont vécu? Comment le racontent-ils à leur famille? Comment vont-ils? Sont-ils atteints d'un syndrome post-traumatique, comme les vétérans des vraies guerres? Y a-t-il des cellules pour les accompagner? Ont-ils touché la prime promise de 1 500 €? Et surtout, la reconnaissance sera-t-elle durable, sonnante et trébuchante? Ou bien sont-ils redevenus les professionnels en seconde ligne, les petites mains des citoyens tout juste ordinaires? Pauline est infirmière en réanimation à Paris, Thibault est infirmier dans un village de Moselle, Yacine, lui, médecin réanimateur à Avicenne, en Seine-Saint-Denis. Après la vague, ou plutôt la marée comme ils disent, tous les trois racontent donc comment ils ont vécu l'épidémie et comment ils vont aujourd'hui. C'est au micro d'Alice Babin, les pieds sur terre, c'est parti.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, je travaille depuis un an et demi maintenant dans un service de réanimation spécifique en neurologie dans un hôpital privé parisien. Et je suis infirmière depuis bientôt 4 ans. Ce qui s'est passé, c'est que la France a été confinée. Nous, dans les 3-4 premiers jours, on a eu des transferts de patients de la PHP et d'hôpitaux publics des alentours. Parce qu'en fait, les hôpitaux publics étaient déjà complètement pleins. Et en fait, très vite, on a été aussi pris d'assaut. Et nos patients, toutes les entrées qu'on a fait n'ont été que des patients en détresse respiratoire aiguë qui étaient atteints du corona. Et donc, nous, on est habituellement 12 lits de réanimation et on est passé à 40 lits de réanimation pour pouvoir accueillir tous ces patients qui étaient malades. Et de toute façon, il y a un moment, on était à flux tendu partout, en Ile-de-France en tout cas. Pour mettre en place nos 40 lits de réanimation, on a dû forcément récupérer du vieux matériel, entre guillemets, mais fonctionnait très bien. Hein. Mais c'est surtout que on s'est retrouvé, en tout cas en Ile-de-France, avec tellement de malades qu'on manquait de matériel. Donc au-delà des masques, des gants et des blouses, on n'avait plus assez de médicaments à un moment et ça nous a obligés à faire, en fait, de mettre en place des protocoles pour pallier à ces manques. Et donc, en prévision du nombre de malades qui ne faisait qu'augmenter, il y a un moment où la seule solution n'ayant pas assez de médicaments, c'était de diviser les doses de sédation et c'était de réveiller, par exemple, plus rapidement nos patients également parce que, comme il fallait faire aussi des économies de produits, ces étapes-là, on les passait plus vite, par exemple. On les endormait moins bien, mais parce qu'il le fallait. Il fallait qu'on soit capable, si jamais ça ne faisait que augmenter, de continuer à endormir les patients parce que le seul traitement possible pour quand nos patients arrivaient en détresse respiratoire, c'était de les mettre assez rapidement dans un coma artificiel. Et donc, ça m'a fait peur et je me suis dit, est-ce qu'à un moment, on va plus avoir de sédatifs, par exemple? Si ça continue, on ne pourra même plus endormir les patients, quoi. C'était assez hallucinant pour nous et ça a été un choc pour autant les infirmiers que les médecins de faire ça. Ça n'était arrivé à personne. Et moi, je ne me serais jamais dit que ça pouvait arriver dans un pays comme la France. Et ça a duré vraiment, je dirais, 3 ou 4 semaines vraiment très tendues, dans l'obligation de faire ces économies-là. C'est vrai qu'au début de la crise du corona, on a eu un afflux de patients, avec beaucoup d'entrées chaque jour et chaque nuit, et souvent dans des états graves, donc il fallait tout de suite endormir et mettre en coma. Et moi, je me rappelle notamment d'une nuit où nos réanimateurs étaient au téléphone. Le téléphone sonnait tout le temps avec des SAMU qui appelaient en demandant si on avait de la place. Il se trouvait que non. Et dans les patients qu'on avait actuellement, on savait que en tout cas un ou deux n'allaient pas s'en sortir et étaient déjà en fin de vie. Et donc, il y avait une telle pression que... À un moment, j'avais l'impression qu'il fallait presque qu'on ait un décès pour pouvoir prendre une entrée parce qu'il y avait quelqu'un en détresse aiguë qui attendait dans un camion de SAMU. En tout cas, une situation qui m'a marquée, notamment, c'était un de nos patients qui est décédé du corona quelques jours après être arrivé dans le service. Et on a eu un souci pour faire descendre le corps, qu'il soit pris dans la chambre mortuaire parce qu'on n'a pas de chambre froide dans notre hôpital. Et du coup, il faut que nos patients partent dans une chambre mortuaire. Et les chambres mortuaires à Paris étaient pleines. Il n'y avait plus de place. Du coup, le corps a été bloqué en chambre pendant un certain temps. Et finalement, notre hôpital a dû louer une chambre froide pour pouvoir stocker les corps et permettre derrière de reprendre une entrée parce qu'il y avait des urgences qui arrivaient, quoi. Dès qu'un patient décédé, le temps de faire partir le corps et de nettoyer, dans l'heure, on avait une entrée, tout de suite. Dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. Et en tout cas, il y avait des patients en attente. Et donc, les premières semaines ont été angoissantes, quoi. Je pleurais en rentrant chez moi, je dormais pas très bien. J'avais peur un peu d'aller au travail, mais c'est parce que j'avais peur d'être dépassée par tout ce qui allait arriver et de pas avoir le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Parce qu'il y avait ces tenues qu'on devait mettre, aussi le masque, la casaque, les lunettes. Il faisait très chaud dans les chambres. On pouvait rester en 3h30 dans une chambre sans sortir les premiers jours quand nos patients arrivaient. Donc, c'était lourd. Après, on a fini, comme toujours, par être rodé, par s'habituer. Et voilà, on a su mieux prendre en charge les patients. Mais on a un peu tâtonné au début parce que personne n'avait vécu ça, en fait, à ce point. Je me suis dit que j'en avais marre, en tout cas moi, d'être infirmière, parce que j'étais révoltée de me dire c'est fou qu'on en arrive là et qu'on soit dépassé par le travail. La quantité de travail, elle était quand même assez impressionnante. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça difficile. C'était long, c'était fatigant. Mais de toute façon, moi, le travail de réanimation commençait déjà à me lasser parce que je suis un peu fatiguée, moi, de ce métier, déjà. J'ai choisi le métier d'infirmière en réanimation parce que j'ai toujours été impressionnée par leur manière de gérer le travail, par leur connaissance, leur capacité d'organisation. En revanche, moi, j'ai conscience que je pense que j'en suis pas forcément capable et que c'est trop de sacrifices à mes yeux. Je travaille en 12 heures, je me trouve harassant et on travaille un week-end sur deux. Et je fais le roulement jour-nuit, je fais 3 mois de jour, 3 mois de nuit. Quand je travaille de nuit, j'ai du mal à reprendre le dessus au bout d'un moment. Oui. Au bout de 2 mois de nuit, je finis par être déjà très fatiguée parce que je dors pas très bien la journée, je dors moins bien que la nuit. Et j'ai du mal à reprendre le dessus sur pas mal de choses. Oui, je finis par être un peu déprimée, effectivement. Oui. J'ai 27 ans et je suis déjà fatiguée, mais au point que on se moque de moi pratiquement dans ma famille, mais je suis fatiguée parce que j'ai des vraies douleurs dans le dos. Enfin voilà, je dois avoir un ostéopathe. Une fois par mois, pendant au moins les 6 chers mois, si je voulais pas finir bossu, j'ai des douleurs aux pieds, j'ai des problèmes de varices. Enfin voilà, mais parce que je suis debout 12 heures sur toute ma journée, je piétine. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui, au bout d'un moment, pour moi, me pèsent en tout cas. Parce que j'ai l'impression de pas très bien gagner ma vie et d'avoir moins d'avantages que d'autres. En moyenne, je gagne, je dirais, 1 950 € par mois, net sur mon compte. Sachant que dans les hôpitaux privés, quand même, on a la possibilité de faire des heures supplémentaires. Et quand je suis nuit également, j'ai des primes. Du coup, je peux avoir jusqu'à, je dirais, 2 150 € net sur mon compte. Voilà. ma petite sœur est infirmière également, et son salaire de base, là, jeune diplômée, elle a commencé à, elle gagne 1600 euros par mois, là. Alors qu'elle fait aussi des nuits, elle travaille en week-end sur deux, enfin, voilà. Elle travaille beaucoup aussi. Donc, il y a un côté un peu révoltant, mais alors, il n'y a pas que l'argent, mais il y a un moment où, là, en tout cas, je pense qu'il y a un ras-le-bol de si peu gagné. Nous, là, actuellement, dans le privé, on n'a pas touché la prime, par exemple. Alors que les hôpitaux publics, qui la méritent, évidemment, hein, ont touché la prime de 1500 euros qui avait été prévue. Donc, je suis blasée, moi, personnellement. Mes amis qui ont d'autres métiers, qui ont fait d'autres études, parfois plus longues, j'ai l'impression que leur qualité de vie est meilleure que la mienne. Donc, moi, je deviens un peu envieuse des autres qui ont vite un travail qui rentre plus dans la norme du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Ça me paraît plus simple, en tout cas, pour avoir une vie personnelle plus épanouie, avoir plus de temps. Le corona n'a fait que confirmer que j'allais changer de métier dans la prochaine année qui va suivre. J'ai envie d'évoluer, de partir dans des métiers, j'imagine, plus de bureaux. C'est sûr que j'aimerais rester dans le domaine de la santé. Si j'arrive à prendre des études et à faire un master, et j'aimerais bien me dire que j'ai été infirmière et que du coup, j'ai aussi touché du doigt des problématiques et j'aimerais bien changer les choses, quoi. J'ai vraiment cette sensation que les infirmiers, on a du mal à se faire entendre et qu'on n'a aucun pouvoir, en fait, pour changer quoi que ce soit. Si ce n'est peut-être faire une grève générale en France et arrêter de travailler, j'ai l'impression qu'on n'a rien pour que ça évolue. Et donc, j'en ai marre et je veux plus de ça, en tout cas. Et en même temps, voilà, et je vous dis, c'est ambivalent parce qu'à la fois, j'adore l'ambiance à l'hôpital, j'aime le travail en équipe, il y a plein de choses que j'adore, hein, et qui font que si je change de travail, c'est sûr que je sais que ça va me manquer déjà, et j'ai peur même d'avoir envie d'y retourner parce que j'adore cette ambiance et je ne connais que ça et j'ai du mal à imaginer que je puisse faire autre chose. Hein.
Je m'appelle Thibault, je suis infirmier depuis 23 ans, j'étais avant à l'hôpital et maintenant ça fait 15 ans que je travaille dans un petit village de Moselle à Blisbruck, un village de 1000 habitants. Je suis dans un cabinet où on est deux et sur le système de fonctionnement, on travaille chacun un tour de rôle une semaine. Voilà. Donc nos patients, c'est des patients communs. Moi, je les ai en charge une semaine, et Mathieu, mon collègue, les a en charge la deuxième semaine, ce qui nous permet de souffler aussi pendant une semaine. En gros, celui qui ne travaille pas au contact des patients fait la partie administrative, et l'autre semaine, il voit les patients, quoi. En nombre de passages, c'est entre 50 à 60 passages jour, pour des choses vraiment différentes qui vont du pansement, injection, perfusion, des soins infirmiers, quoi. Et nous, on fait du domicile. J'ai eu des premiers appels pour les patients atteints. Il me semble que c'était un lundi 23 mars. Et mon collègue, lui, m'a appelé le mardi 24 pour me dire qu'il avait été testé positif. Et à partir de là, il était hors de question que lui travaille pour pas ramener le virus chez les patients, ce qui est l'objectif. Et donc, on a décidé que lui s'isolait chez lui pendant une période de 15 jours. En gros, ça représentait finalement 3 semaines quasiment par rapport à notre rythme régulier, quoi. Du coup, c'est moi qui ai assumé tous les jours. J'ai un copain infirmier qui m'a remplacé 2 jours histoire que je puisse souffler. Oui, sur les 3 semaines, je me suis posé 2 jours. Le plus inquiétant était de se dire, il n'en reste plus qu'un des deux. Si moi je tombe malade, après les patients n'ont plus personne. Et ça, c'était le plus inquiétant. Au début, on a vraiment senti ce phénomène de vague dans le sens où les appels devenaient très fréquents. Donc, il a fallu avoir des masques, il a fallu, on a organisé ça avec avec mon collègue, à essayer de voir les stocks qu'on avait, nous, à gauche, à droite, pour voir combien de temps on pouvait tenir. Donc, on avait quelques masques FFP2 et quelques masques chirurgicaux. Ça nous faisait 3 semaines. On avait décidé de n'avoir qu'un seul masque par jour, vu le peu de masques qu'on avait. Et en termes de surblouse, de charlotte, de surchaussures, on tenait 3 jours. Et puis, après, il y a eu donc les annonces du président disant qu'on allait être livré. On se réjouissait, on s'est dit, ouais, bon, finalement, on en aura assez. Et la première livraison de masques qu'on a eue devait être aux alentours du 30 mars, à peu près. C'était 18 masques chirurgicaux, en nous disant que c'était pour moi et mon collègue, et pour une semaine. Donc, on était très, très déçus, parce que ce n'était que des chirurgicaux. Et puis, vu le nombre, on a été encore plus déçus. C'est que la deuxième semaine, quand on est retourné à la pharmacie, il n'y avait aucune dotation, ni la troisième semaine, ni la quatrième semaine. C'est au bout de la cinquième semaine qu'on a eu la deuxième dotation. Donc, si on avait compté sur l'État, on aurait eu, pendant 4 semaines, 18 masques chirurgicaux. Donc ça, c'était largement insuffisant et c'était vraiment au pire moment de l'épidémie et de la contamination. Et de là, on n'était pas rassurés. À partir du moment où les gens ont entendu à la télé, à la radio, que les infirmiers, que les médecins étaient en manque de masques et de matériel, on a eu assez rapidement des appels de chefs d'entreprise qui nous ont dit « moi j'ai une réserve de 20 masques », des particuliers qui avaient encore 4-5 masques à la maison et qui nous les donnaient. Et j'ai eu la chance d'avoir l'appel d'une directrice d'école qui avait toute une réserve de masques FFP2 qui datait de l'époque de la grippe aviaire, il me semble. C'est une institutrice que mon fils avait et on se connaît, on se côtoie des fois dans les fêtes de village. Mais dans les villages, tout le monde se connaît. Et c'est vrai que quand elle a entendu à la télé que les infirmiers étaient en pénurie de masques, elle a d'abord pensé à moi en me disant « Au fait, Thibaut, est-ce que tu en es de ta dotation de masques? Est-ce que tu en as assez ?» Je lui ai dit que je n'en avais pas. Et puis, du coup, elle a fait le ménage au niveau de l'école et elle est tombée dans ses placards, sur ce stock encore qu'elle avait. Donc, de mémoire, il me semble que c'était de 2003, les masques. Et alors, ils étaient périmés, mais au moins, ils existaient, quoi. On savait qu'on avait des masques FFP2, au moins, pour être protégés, dans une belle quantité. Et là, on a été vraiment rassurés à partir de ce moment-là, ce qui fait que, du coup, avec mon collègue, on a pu faire 2 masques par jour. Ça nous permettait de tenir pendant à peu près 3 mois. Donc, sans cette directrice d'école, c'est sûr que ça aurait été très, très compliqué pour nous. On a croisé d'autres collègues qui étaient beaucoup moins bien lotis que nous. Quand nous, on avait cherché des médicaments pour nos patients dans les pharmacies et ce qu'on a pu partager avec les pharmaciens, c'est que il y a des infirmiers qui allaient tous les jours à la pharmacie pour essayer de mendier des masques. Et d'un autre côté, la réponse du pharmacien était tout le temps la même. Nous n'avons pas été livrés. C'est vrai qu'avec mon collègue, nous, on en a redispatché 1 ou 2 boîtes de vin à des collègues qui, eux, n'en avaient vraiment pas du tout. Et hier, j'ai eu 9 masques FFP2 et 50 masques chirurgicaux. Merci, mais ça vient 2 mois trop tard, j'ai presque envie de dire. Donc, on le dit maintenant en souriant, mais sur le coup, ça nous a pas fait beaucoup rire. Finalement, il vaut mieux compter sur son voisin, sur le médecin, le boulanger, le facteur, et ça resserrait les liens entre tout le monde, plutôt que de se dire « je vais attendre un geste du gouvernement ». Moi, j'aime bien dire « je suis infirmier dans un village ». Je suis pas infirmier dans une grande ville. Dans un village, il y a vraiment une notion de « tout le monde connaît tout le monde ». On a bien ressenti à quel point le visage est très soudé et important durant l'épreuve, quoi. Moi, je suis dans mon village et ça me fait sourire, finalement, ce que les grands politiques discutent, quoi. Les grands effets d'annonce de dire nous aurons tant et tant de masques, nous aurons tant et tant de PCR et de... Moi, tous les jours, quand j'arrive au laboratoire, les gens font la queue devant le laboratoire ou nous appellent en disant voilà, on veut des tests sérologiques qu'ils ont annoncé hier à la télé. Pas parce qu'ils l'ont annoncé hier à la télé qu'on peut le faire. Il y a souvent un temps de décalage, en fait, entre le milieu rural et les effets d'annonce. C'est ça qui me fait toujours sourire, vous voyez. Donc, on s'adaptera, nous, dans notre village, à faire avec ce qu'ils nous donneront. On complétera s'il y a des manques. Je sais pas comment, mais on complétera. Comme on a fait là, vous voyez. On a complété, quoi.
Je m'appelle Yacine Tangeri-Langiot, je suis médecin en réanimation au CHU Avicenne à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Et ce CHU est le seul CHU de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire un département de 1,6 million d'habitants, massivement touché par l'épidémie de Covid. Donc quand l'épidémie a commencé en Seine-Saint-Denis, brutalement, en l'espace de 10 jours, sont arrivés de plus en plus de malades très graves. Quand on a vu ces malades arriver de façon très rapide, initialement, on s'est dit qu'on avait une vague de malades très impressionnante. Puis en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas du tout une vague, mais plutôt une marée extraordinairement haute, inédite. On n'avait jamais vu ça, vraiment jamais vu ça. Donc là, vraiment, on s'est retrouvé complètement submergé. Il a fallu trouver des solutions pour pouvoir s'occuper des patients. Parce que la vraie difficulté, c'était qu'une fois que toutes les places de réanimation étaient prises au sein de notre hôpital, qu'est-ce qu'on faisait des patients très graves qui arrivent aux urgences? On pouvait se retrouver confronté à ce qu'on appelle des pertes illégitimes, c'est-à-dire à des patients qu'on aurait dû réanimer et qu'on n'aurait pas pu réanimer faute de moyens. On a tous très peur de ça, parce qu'il y a vraiment des situations où on s'est dit, bah là, si on trouve pas de solution, rapidement, on va être contraint de devoir faire des choix éthiques insupportables. Un patient de 70 ans dans le service qui a besoin d'un respirateur, qui est depuis deux jours dans le service de réanimation, et se présente aux urgences à un patient de 50 ans qui n'a pas d'antécédent et pour lequel il faudrait faire de la réanimation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on débranche le malade qui a 70 ans pour donner son ventilateur à celui qui a 50 ans? Est-ce qu'on endort celui qui a 50 ans? Enfin, c'est vraiment cette situation-là qu'on craignait tous, pour laquelle on s'est tous battus pour qu'elle ne survienne pas. Et pour qu'elle ne survienne pas, il a fallu des efforts absolument considérables de tout le monde. Des soignants, évidemment. Il a fallu aussi une structure logistique gigantesque pour pouvoir mettre en place des solutions d'accueil pour ces malades-là. C'est-à-dire trouver des lits de réanimation, du matériel de réanimation, du personnel capable de faire de la réanimation. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé d'augmenter notre capacité au sein de l'hôpital. Pour vous donner un ordre d'idée, dans mon hôpital, il y a habituellement 16 lits de réanimation. 16 lits de réanimation, on est quand même le plus gros service de réanimation du département. Sur ces 16 lits de réanimation, qui étaient tous saturés, nous, on avait une autre unité qu'on appelle des soins continus, des soins intensifs. En pratique, c'est une espèce de réanimation légère, quoi. On n'avait pas le personnel pour les faire tourner. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est transformer ces lits de surveillance continue en lits de réanimation, en faisant venir du personnel pour s'occuper des malades. Donc, très rapidement, on est passé de 16 à 24 lits. Et à 24 lits, on était complètement dépassés. Et donc, on a monté en charge très rapidement notre capacité en transformant des services qui ne sont pas des services de réanimation en services de réanimation. On a même créé des unités de soins intensifs là où il n'y avait pas du tout. On a rappelé les anciens. On a fait intervenir les infirmiers anesthésistes. On a fait revenir des collègues qui étaient en train de faire de la recherche. J'ai des collègues qui étaient partis pour faire le tour du monde, qui avaient pris une année de césure. Quand ils ont vu ce qui se passait, ils étaient en Argentine, ils ont raté leur tour du monde, ils sont revenus. On avait des collègues, des médecins qui faisaient une année de recherche, qui étaient partis au Santa Barcelone, ou à Londres, qui ont arrêté leur année de recherche pour revenir faire du soin. Voilà, des infirmiers qui étaient à la retraite, qui devaient partir pour aller s'occuper de leur potager, dont ils rêvaient depuis des décennies, bah, qui ont laissé tomber le potager et qui sont revenus pour prêter main forte dans le service. On a des infirmiers qui normalement travaillent plutôt en 8 heures dans des services qui ne font pas de réanimation et à qui du jour au lendemain, on leur a dit, voilà, maintenant, désolé pour vous, mais en fait, vous travaillez en 12 heures, vous allez faire de la réanimation et vous allez être exposé au Covid avec l'angoisse que ça peut générer pour tout le monde. Et malgré tout ça, personne n'a rechigné. Personne. Il n'y a pas eu d'abandon de poste. Aucun. Personne ne s'est plaint. Tout le monde a relevé les manches. Et on a tous travaillé dans une intelligence insoupçonnée. Habituellement, il y a toujours des petites guerres intestines entre les différents services, entre les différents égos, entre toutes les querelles intestines, toutes, ont été mises sous cloche pendant l'épidémie. Et je suis même très fier de notre administration. Et dans ma bouche, ça veut dire quelque chose, parce que je me porte actuellement pas tellement dans mon cœur, mais je dois dire que l'administration hospitalière qui est vécue par les soignants souvent comme un adversaire, là, est devenue un partenaire. On a eu vraiment une espèce d'union sacrée extraordinaire qui fait que tout ce qui était faisable a été fait. Et même ce qui était impensable a été fait. Enfin, vous pouvez avoir l'idée, hein. Habituellement, quand on veut rajouter 2 lits dans une unité, il faut faire une demande auprès de la direction, il faut la budgéter, voir la DRH, demander à l'ARS. Ça met des mois pour essayer d'avoir une réponse. Et ensuite, quand on a la réponse qui est positive au bout de quelques mois, il faut encore des mois pour essayer de recruter des gens. Là, en l'espace de 10 jours, on a créé une unité de réanimation dans un endroit qui est un service de chirurgie. Enfin, des choses complètement insensées. Je suis assez ébloui de ce qui a été fait et de comment ça a été fait. Mais à côté de ça, il y a en période standard une structure qui n'est pas à la hauteur de l'engagement des soignants. Il y a des manques de moyens, il y a des manques de personnel et donc il y a des manques de soins. Ça, clairement, c'est quelque chose qui génère de la honte au quotidien. Moi, il y a des situations où, en dehors de l'épidémie, où j'ai honte pour nous. Nous, en tant que soignants, et nous, en tant que pays, qu'on ne soit pas capable de défendre ceux qui ont besoin d'être soignés comme ils devraient l'être. Et là, il y a une espèce de bulle de savon magique qui a été cette épidémie où toutes les vannes, tous les budgets ont été ouvertes. Où ce qui est arrivé en premier, c'était le soin. La question n'était pas de savoir comment c'est l'écouter, la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour soigner les malades. On s'est retrouvé dans une situation où c'était la décision médicale qui l'emportait sur une régulation financière quelconque. On n'a plus l'habitude du tout de ça. On a tous très peur que on revienne au schéma d'avant, c'est-à-dire le retour à la normale. Et comme on a goûté récemment avec l'épidémie à la fois la bienveillance de l'administration et des moyens humains considérables mobilisés, le retour à la situation précédente, s'il devait avoir lieu, serait d'autant plus dur. Et peut-être qu'on pourrait trouver une solution pour que la situation standard de l'hôpital soit normale, adaptée aux malades, adaptée aux besoins, et pas forcément adaptée aux finances.
C'était Les Soignants après la tempête, un reportage d'Alice Babin réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Pauline, Thibault, Yacine, Marion et Norbert. Sarah Djeriwi, c'est notre stagiaire, grande prêtresse des réseaux sociaux. Et Camille Richir, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre.